Notre chroniqueuse politique, Jacinthe Varel, est avec nous en studio. Jacinthe.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va bien.
Comment va ton nouveau show du côté du 99.5 Montréal, notre station sœur?
Ça se passe très, très bien.
Oui?
Oui, on a beaucoup de plaisir.
Beaucoup de fun.
Je suis seule, mais oui. J'ai des invités, alors on a beaucoup de plaisir, mes invités.
Yes. Bien entouré.
Oui, oui.
De belles discussions.
Oui, absolument.
Y a-t-il quelqu'un, Un invité, y a-t-il une personne qui s'est démarquée, que tu as appréciée énormément dans la dernière semaine et demie de ton show, là?
Bien, chaque entrevue nous permet d'en apprendre. J'essaie toujours d'être dans le mode apprenons quelque chose, tirons quelque chose de cette entrevue, allons plus loin. Donc, chaque entrevue...
Politicienne, réponse de politicienne.
Non, mais je vais quand même me commettre parce que c'est ma marque de commerce. Je prends toujours position. Je pourrais dire que l'auteur Alexandre Jardin que j'ai reçu lors de ma toute première émission, lundi dernier, bon, pas cette semaine, mais la semaine dernière, c'était franchement une grande fierté pour moi de l'avoir parce que c'est un auteur que je lis depuis longtemps. Je l'adore. C'est un activiste très impliqué dans la vie civique, dans la vie politique aussi. Et puis, franchement, j'ai trouvé ça rafraîchissant de l'avoir parce que je le suis depuis longtemps, mais aussi parce que de voir un citoyen engagé comme ça, qui est venu nous parler des ZFE, des zones à faible émission, donc des zones en France où certains véhicules n'ont plus le droit d'accès. Comment? Mm-hmm. Donc, ce qui fait que les gens les plus pauvres ou vulnérables qui n'ont pas les moyens d'avoir une voiture récente, bien, se voient restreindre ou interdire l'accès à des centres-villes. Et je me disais, dans la folie verte, dans la folie écologique, c'est quelque chose qui pourrait nous menacer ici aussi, en Amérique du Nord, au Québec particulièrement, dans certaines villes, avec certains maires qui pourraient trouver ça des bien bonnes idées.
Une ville qui a de la misère à déneiger, je crois,
ouais,
que t'as en tête. Une ville où, justement, ton émission est diffusée. Hein?
Ben ouais.
OK,
ouais,
je fais des liens, là.
Ben oui, puis de toute façon, un État qui veut interdire la vente de véhicules thermiques très bientôt, là, qui veut passer... De toute façon, on n'est pas loin de ça, avec l'obligation d'acheter des véhicules électriques dans pas mal moins longtemps qu'on pense. Là, on voit toujours 2030-35 comme si c'est bien loin. C'est demain matin.
Jacinthe Varel, 19h, du côté de Montréal, au 99.5
Montréal.
18h. Ouais. Hey, je te mettais à dire, j'étais totalement mis. C'est qui? C'est Marceau que t'as
dit 19h?
Oui, c'est pour ça. Okay, Jacinthe à 18 et ensuite Marceau qui est à 19h du côté de Montréal. Faut parler du fiasco, voire scandale, ça clique. Je te pose la question, c'est presque y répondre. Il faut-tu y aller plus loin dans cette histoire-là et creuser pas mal plus creux justement pour savoir qui est fautif et qu'est-ce qui s'est passé?
Bien, hier, justement, je recevais mon émission Annie Trudel, qui a travaillé à l'UPAC, hein, puis qui a été un témoin clé dans la commission Charbonneau, qui a rédigé un livre sur l'UPAC, sur le dysfonctionnement de l'UPAC et l'illusion que l'UPAC, finalement, pouvait vraiment débusquer, puis déterrer, faire la lumière sur les réels enjeux. Et elle me disait à l'émission... tu sais, oui, l'Autorité des marchés publics va faire une enquête. Oui, l'UPAC va peut-être se pencher là-dessus. Mais dans leur mandat, ils n'ont pas le mandat d'éclairer tout le volet politique. Mm-hmm. Alors, est-ce que des élus étaient au courant du fiasco qui s'en venait? Est-ce que des élus ont autorisé ou étaient complices, finalement, des décisions qui se sont prises? Ça, bien, ces enquêtes-là à l'AMP et à l'UPAC ne feront pas la lumière sur ce volet-là. Donc, elle, ce qu'elle disait, c'est que ça prend soit une commission d'enquête indépendante, au même titre qu'on a eu la commission Charbonneau, par exemple, ou une commission parlementaire. Ça pourrait être tout simplement une commission parlementaire à l'intérieur de l'Assemblée nationale où les députés de l'opposition questionnent les députés ou les ministres concernés par cette affaire, puis on fait la lumière sur le volet politique. Alors, depuis qu'elle m'a expliqué ça, parce que moi, je pensais que c'était suffisant, bien là, c'est sûr que je comprends mieux les revendications du Parti québécois et de Québec solidaire de demander absolument une commission d'enquête publique pour s'assurer qu'on ait la vérité, mais aussi de redonner la confiance des citoyens envers nos élus, envers le processus, finalement, législatif qui est en place.
Oui, parce que là, on s'entend que le niveau de confiance envers les ministres de la CAQ, puis là, je vais mettre les trois principaux qui sont nommés, Geneviève Guilbeault, François Bonnardel et Éric Kerr, est à son plus bas, d'autant plus que Carl Malenfant est sorti dans Le Devoir en disant « Hey, je l'ai dit, moi, Éric Kerr, qui avait les indicateurs au rouge. » Fait qu'à un moment donné, si Carl Malenfant fait cette sortie-là, il n'a pas peur de se faire poursuivre par le gouvernement, il y a de bonnes chances que ça soit vrai, là.
Oui, exactement. Il y a des... De toute façon, il y a des langues qui vont se délier. On le voit déjà ce matin. Alors, effectivement, ça laisse percevoir, ça laisse comprendre que finalement, il y en a peut-être qui avaient des indices. Jusqu'où il y avait de l'information? Qui avait de l'information? Est-ce qu'on va sacrifier Éric Kerr, qui est une cible... moi, je trouve que c'est une cible facile, là, Éric Kerr. Ça fait longtemps qu'on le blâme dans toutes sortes de dossiers. Il a déjà mis son siège en jeu pour le projet du troisième
mais
lien.
Mais en même temps, il est victime de ses propres déclarations. Je vais quitter s'il n'y a pas de troisième lien. Ouais. Je suis le shérif dans la place. Ben ouais. Je veux qu'on gère les contrats informatiques de façon plus vigilante.
Ouais. Ouais. Puis on a une Sonia Lebel, hein, présidente du Conseil du Trésor, qui a demandé à l'AMP, à l'Autorité des marchés publics, de se pencher sur le dossier. Mais Sonia Lebel a été connue pour sa rigueur, son éthique de travail irréprochable, son sens très fort de l'éthique et de la transparence du gouvernement. Donc, j'ai hâte de voir aussi, elle, comment elle va se positionner là-dedans, parce qu'à un moment donné, il doit y avoir des positions plus difficiles à tenir quand on a tenu ce discours-là et qu'on sait que certains de nos collègues jouent la comédie. Si c'est le cas, on le sait pas encore.
Ouais. Hey, je disais plutôt cette semaine que c'était pire de... Si t'étais ministre et t'avais la sac sous ta charge, c'était pire de pas être au courant de ce qui se passait que d'être au courant puis peut-être se fermer les yeux ou jouer à l'autruche. Je suis dans le champ?
Ben non, c'est vrai que si on n'est pas au courant de ce qui se passe dans une de nos sociétés d'État, qu'est-ce
on
qu'on
sert
fait?
À quoi?
À quoi? Exactement, oh oui. Non, dans un cas ou dans l'autre, Geneviève Guilbeault, la ministre des Transports, est très, très mal positionnée. Ouais. Parce que de dire « on ne m'a pas informé », c'est pas une meilleure posture que de dire « je le savais, mais c'était pas le bon moment, on est en campagne électorale, c'est à l'automne 2022, ça aurait fait un scandale ». On n'aurait pas rentré aussi fort dans notre deuxième mandat avec autant de nombre de sièges. J'ai pris une décision politique. Ça, c'est très mauvais de dire ça, mais c'est tout aussi mauvais de dire je gère une société d'État qui ne me transmet pas les informations. J'ai hâte de la voir s'exprimer là-dessus. Hein. Elle donne très peu d'entrevues. Geneviève Guilbeault, elle répond là, aux périodes de questions, mais à part ça, ça serait intéressant de l'entendre davantage parler parce que le fait qu'elle réponde pas de ça ou qu'elle fait juste mettre le blâme sur des fonctionnaires, ça lui donne pas plus une belle position, une belle posture. Pensez-y, là.
Non.
On est en charge.
Fameuse situation lose-lose qu'on appelle.
Oui, puis de toute façon, blâmer des fonctionnaires pour dire « ils m'ont pas dit » ou « ils ont caché ça », vous savez, on a des cabinets ministériels remplis de conseillers politiques qui, dans leur travail, c'est d'être au service de leur ministre et d'aller fouiller dans la fonction publique. Ils ont des dossiers, ils ont des portefeuilles de dossiers, les conseillers politiques, auprès des ministres. Et c'est leur travail de, par exemple, celui qui est attitré à la SAC, de ramener de l'information, de challenger l'information qui leur sont transmis et finalement de faire le relais avec la ministre. La ministre est aussi responsable de poser des questions, de gratter, de challenger, d'aller l'information. Donc, elle n'a pas un rôle passif non plus. Elle n'est pas assise dans son bureau puis elle attend que les rapports débarquent sur son bureau puis elle attend que l'information lui soit transmise. Elle a un rôle très actif, très proactif. Elle doit aller chercher l'information, veiller à ce que tout se passe bien. Donc, juste de dire « on ne m'a pas transmis l'information », elle enlève tout le volet proactif où elle est responsable, puis elle est supposée aller gratter finalement, puis aller challenger, puis elle a du personnel aussi pour l'aider là-dedans.
Non, en effet. On change de sujet. Je m'en vais avec la chefferie au niveau du Parti libéral canadien. Deux débats. C'était pénible en français. Ça n'avait pas de bon sens. Pas bien ben mieux en anglais hier. L'étoile de Mark Carney est-elle en train de parler? Parce qu'il a été très hésitant. Là. Il n'y a pas beaucoup de réflexes politiques, M. Carney.
Non, il était très faible à la fois en français et en anglais. Donc, ça nous a permis peut-être de le débarquer de son piédestal. On peut avoir eu un CV bien prestigieux et avoir travaillé dans les meilleurs endroits du monde. Il reste que être un premier ministre, hein, parce qu'en plus, ces gens-là aspirent à la fonction de chef du Parti libéral du Canada, mais ils aspirent à la fonction de premier ministre. Ils le disent dans leur discours pendant 2 heures lundi en français, puis pendant 2 heures mardi en français. Ils se positionnaient dans une posture de premier ministre du Canada. Quand on aspire à ça, il faut être solide, il faut avoir développé toutes sortes de compétences, des compétences de communication, mais des compétences aussi stratégiques, des compétences politiques. On a senti même que la connaissance fine du terrain politique, hein, toute la distinction entre les compétences fédérales, provinciales, c'est était flou parfois chez certains candidats, dont Mark Carney, qui parlait de santé, par exemple, et on sentait là, qu'il n'y avait pas nécessairement une bonne, fine compréhension de tous les enjeux stratégiques et politiques derrière la juridiction de compétences provinciales au niveau de la santé, par exemple, où on ne peut pas faire ce qu'on veut puis imposer ce qu'on veut aux provinces. C'est probablement ce qui explique qu'ils ont porté une grosse partie de leur discours, comme Mark Carney l'a fait, et Chrystia Freeland, là, ces deux-là étaient particulièrement virulents à l'endroit de l'administration Trump. C'est comme si devenir premier ministre du Canada, ça voulait dire être le grand défenseur face à notre méchant voisin du Sud, et c'est tout ce qu'ils portaient dans leur discours. C'était se porter en porte-à-faux en lien avec l'administration Trump et ses menaces tarifaires, ou se porter finalement... l'adversaire politique de Pierre Poilievre. C'est comme si dans l'adversité face à Poilievre ou face à Trump, là, ils trouvaient facilement leur rôle, leur place, leur raison d'être. Mais à part ça, si on avait enlevé l'adversité Poilievre, l'adversité Trump, ben moi, j'entendais pas beaucoup. C'est quoi ta vision d'un Canada dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Qu'est-ce que tu veux nous construire comme pays? Qu'est-ce que tu veux reconstruire? Puis surtout, comment tu vas le faire? Parce que le comment, là, il y en avait pas de comment.
Non,
hier, en anglais, lundi en anglais, comment je vais arriver à vous construire une économie plus forte? Comment je vais arriver à l'équilibre budgétaire? Hein? Parce qu'il nous dit, je vais arriver à l'équilibre budgétaire, mais
dans
je ne ferai pas de
ans, mais on n'a pas de... C'est ça, on n'a pas de viande là, autour de là. Il dit, OK, dans 3 ans, oui, quand même. Bon, dans 3 ans.
Puis ça révèle sa plus grande faille, parce qu'on n'arrête pas de dire que c'est un candidat économique, qui connaît les chiffres, il est en charge des budgets à la Banque du Canada, à la Banque d'Angleterre, mais si tu connais les chiffres comme ça, puis tu nous dis que tu vas arriver à un équilibre budgétaire avec 60 milliards de déficit en 3 ans, mais que tu n'es pas capable de dire comment tu vas y arriver. Tu fais juste dire non, mais je ne couperai pas nulle part. Inquiétez-vous pas, le budget va s'équilibrer. Je ne couperai pas nulle part. Moi, je n'entends pas quelqu'un qui est fort en chiffres. J'entends quelqu'un qui est fort en belles promesses électorales.
Jacinthe, si Mark Carney gagne la course à la chefferie et lorsqu'il y aura débat contre les autres leaders au Canada, il y a de la job à faire en tabarouette hein, pour en arriver là puis être compétitif dans un débat au fédéral?
Oui, parce que ce qu'on entendait beaucoup, c'est il faut que nos frontières soient plus sécures, il faut que notre budget soit plus équilibré, il faut que les Canadiens se sentent plus en sécurité, il faut que. N'importe qui nous écoute un matin dans son auto ou en train de faire ses toasts un matin, il est capable de venir au micro ici puis dire « Hey, moi, là, je peux devenir premier ministre du Canada. Il faut que. » Voyons, c'est pas de la compétence politique, c'est pas du savoir stratégique, c'est pas de la grande performance de grands leaders d'un pays du G7. Franchement, la marche va être haute quand il va être le temps d'affronter justement d'autres adversaires politiques dans une campagne électorale.
Dans ce contexte-là, est-ce que l'alliance qui avait été rejetée présentement par le Parti libéral entre les libéraux et le NPD pour ramener à des élections plus à l'automne devient encore plus crédible parce que Mark Carney, s'il est élu chef du Parti libéral du Canada, va avoir besoin de réalisations concrètes sur le terrain pour être crédible, justement.
Oui, effectivement. Ben, toi et moi, on s'entendait là-dessus.
Oui, on s'entendait là-dessus encore.
On est deux des rares qui pensons qu'il n'y aura pas d'élection hâtive ce printemps et que ça ira à l'automne pour lui laisser la chance là, de gagner un peu d'expérience.
Ben, c'est parce que je vais dans l'hypothèse. Ben, s'il fait des gains contre Donald Trump, il va pouvoir se présenter à l'automne en disant « Regardez ce que j'ai fait pour le Canada. » Tandis que s'il se présente là au printemps, il n'y a pas ça. Puis avec sa faiblesse au niveau du discours politique, au niveau des débats, moi, je pense que ça va être une catastrophe.
Oui, c'est un pari très risqué. Puis pensez-vous que Mark Carney s'en va là pour devenir chef de l'opposition officielle?
Non.
Moi, je pense qu'il vise réellement le poste de premier ministre du Canada. Et en ce moment, ça serait un grand pari risqué de s'en aller en élection. Alors, j'ai l'impression qu'effectivement, il va poursuivre une alliance avec le NPD et nous imposer des élections seulement à l'automne, le temps de miser sur sa probabilité là, d'agir comme premier ministre non élu pendant quelques mois, peut-être réussir à faire des gains avec l'administration Trump, parce qu'on sait de toute façon que l'administration Trump, on peut aller plus loin là, dans les hypothèses, mais si l'administration Trump est en mode bluff, est en mode de toute façon, je sais bien que j'ai besoin du Canada, nos économies sont très intégrées, notamment dans le secteur de l'automobile. Daniel Smith, Doug Ford ont fait un très bon travail de représentation aux États-Unis. Nos bureaux du Québec aux États-Unis ont fait leur travail. Tout le secteur économique est bien conscient là, des impacts que ça aurait. Donc, si on fait l'hypothèse que Donald Trump, il va beaucoup plus fort en parole, mais qu'en acte, ce ne sera pas si pire que ça, bien, Mark Carney pourrait y gagner, de gagner du temps, finalement, puis de se péter les bretelles, puis dire que finalement, bien, voyez, on a réussi à sauver la catastrophe avec les États-Unis grâce à moi.
Un petit peu plus de temps pour travailler, c'est « il faut que, il faut que, il faut que ».
Oui.
Aller un petit peu plus loin que ça.
Ben oui.
Dit ça. Notre chroniqueuse politique, Jacinthe Evert, c'est toujours un plaisir.
Merci.
Merci de passer nous voir, Jaser Politique.
De vous
voir. Puis bon show ce soir du côté de Montréal, 99.5. Max, avant la pause, breaking news.
Le RTC retire temporairement 44 véhicules de la route, une décision qui survient après deux incendies ayant récemment touché la même série d'autobus. Mmh. On parle d'une décision prise pour assurer la sécurité des clients et des employés. Donc, on retire les véhicules de la circulation pour faire des inspections qu'on dit préventives. On va mettre en place des mesures de contingence. Du moins, on évalue les possibilités présentement pour limiter les impacts, mais dans tous les cas, il y a des départs qui seront annulés aujourd'hui et dans les prochains jours, parce que t'enlèves 44 autobus, ça n'a pas le choix de paraître sur le réseau.
C'est des autobus articulés, je ne m'abuse, qui avaient pris en feu à l'arrière du véhicule, donc des autobus qui servent sur les parcours à haute fréquence, les parcours métrobus, fait que dans le 44, il va y avoir des très grosses répercussions au niveau de surcharge, au niveau de retard, là, c'est certain. Coudonc, on avait besoin de notre petite problématique en transport en commun, nous autres aussi. On voulait égaler Montréal avec le REM.
Hey, qu'êtes-vous pas Montréal, on a un petit problème d'autobus.
Ouais, c'est ça, mais on va essayer de pas vous battre avec vos problèmes du REM, s'il vous plaît.
On va creuser un petit peu plus et suivre ce qui se passe avec le RTC. Bien évidemment, 8h07, 8h08 minutes, courte pause à Rage Against le matin. On s'arrête deux.